RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, surtout les grandes gueules ici en direct de Villepinte au salon Global Industrie. Nous y sommes venus avec le consultant juridique Antoine Diers, avec Laura Varton-Martinez qui est sophrologue, avec notre cheminot, le cheminot de Vierzon. Il aura bientôt sa statue sur place.
J'aimerais
Il faudra peut-être attendre la prochaine municipalité.
C'est pas avec ceux qui sont au pouvoir qui vont mettre ma statue. Hein. Ou alors peut-être avec une cible pour me tirer dessus, c'est possible.
Bruno Poncet et des nôtres. Oui, nous sommes en direct du salon Global Industrie. Et on va accueillir le ministre de tutelle.
RMC, face aux grandes gueules.
Face au GG Sébastien Martin, ministre de l'Industrie. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Voilà, c'est mieux avec le micro ouvert. Est-on face à un nouveau choc pétrolier, monsieur le ministre ?
On est aujourd'hui face à une crise majeure. On n'est pas encore face à un choc pétrolier comme on l'a connu dans les années, la fin des années 60 et années 70. On est encore dans une crise. La question du choc, elle viendra effectivement si à un moment ou un autre cette crise dure trop longtemps et que nous avons
des problèmes. Ça fait déjà un mois quand même.
Oui, ben écoutez, on a connu des crises par le passé qui ont duré beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les émissions que l'on a, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que l'on veut, on a l'impression que quelque chose qui dure depuis 3 semaines dure depuis finalement des mois. Mm-hmm. Pour l'instant, ça fait qu'un mois que cette crise a démarré. Et bien évidemment, enfin, faut pas se voiler la face. Si les choses durent comme ça jusqu'à l'été, qu'on est privé d'approvisionnement d'à peu près ce qui représente 20% de l'approvisionnement, c'est sûr qu'on ira vers une situation qui sera plus qu'une crise.
Pardon, monsieur le ministre, mais le prix du gazole n'a jamais été aussi haut depuis au moins les années 80. L'inflation est en train de repartir là. Hausse, le prix des matières premières explose, l'activité économique va reculer, on le sait, et on a l'impression que le gouvernement observe et prie chaque matin que la guerre s'arrête, sans aucune autre mesure d'accompagnement précise, à part quelques aides très ponctuelles, parce qu'on nous explique qu'on n'a plus d'argent. C'est ça un gouvernement, c'est de regarder passer les trains?
Je pense que vous savez très bien compter, parce qu'on a dit c'est des miettes. Mais attendez, on a annoncé des aides pour un mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la crise continue, si la crise continue, ça veut dire que ces aides seront reconduites. Donc, si je ne m'abuse, 70 millions d'euros sur un mois, si ça doit durer plus d'un an, si ça doit durer un an, on sera à 850 millions d'euros. Si d'autres professions doivent être accompagnées, en fait, au final, sur une année, on sera à 1 milliard d'euros qu'il faudra essayer de trouver pour accompagner les professions dites qui sont en difficulté ou qui traversent une difficulté. On a le côté raisonnable de dire que cette crise, on souhaite qu'elle ne dure pas éternellement.
Oui,
malheureusement, il ne semble pas que ce soit la France qui l'ait déclenchée.
D'accord.
Ça serait bien aussi de rappeler ceux qui l'ont déclenchée, ce que j'entends pas beaucoup sur les plateaux, ce que j'entends pas beaucoup de la part de ceux qui nous tapent dessus toute la journée, notamment le Rassemblement National. Et Madame Le Pen, je vous rappelle que c'était la première à vouloir faire un selfie avec Monsieur Trump. Donc, il y a un moment.
Enfin, le jour où le régime des mollahs tombera, vous serez le premier à vous en satisfaire.
Pardon ?
Si le régime des mollahs tombe, vous serez le premier à vous en féliciter.
Mais personne ne se satisfaisait de ce régime.
Mais
ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie quand même. Or, on voit bien que la stratégie, elle pose question.
D'accord, mais néanmoins, moi je vois les voisins espagnols, italiens, ils ont pris des mesures beaucoup plus importantes.
Ils annoncent des budgets sur l'année.
Ils annoncent des mesures sur l'année. Ils annoncent des mesures qui sont des budgets débloqués sur l'année. Non, je vais vous parler de l'Italie et de l'Espagne.
Je vais vous parler de l'Italie et de l'Espagne. L'Italie et l'Espagne, en ce moment, effectivement, ils ont un déficit budgétaire qui est moins élevé que le nôtre. La seule différence, c'est qu'en ce moment, ils sont à plein bénéficiaire du plan de relance européen post-Covid. La France a eu 70 milliards qui lui ont accompagné au lendemain du Covid. Et c'est vrai qu'on en a fait un bon usage. L'Espagne, c'est 120 milliards. L'Italie, c'est 200 milliards. En ce moment, en Italie, vous avez sur la dépense publique de l'Italie 30 ou 40 milliards qui sont payés par l'Europe. Mmh. Et on voit bien que malgré ça, ils n'arrivent pas à avoir un déficit public qui est en dessous de 3%. Et que les mesures qu'ils prennent sont annoncées pour l'année.
Parce que nous, on est au-dessus de 5.
L'année prochaine,
on est la lanterne rouge
l'année
de l'Europe
prochaine, vous
avec la Belgique.
Et on verra à quel niveau sera le déficit public italien quand il n'y aura plus 30 ou 40 milliards de fonds européens pour financer l'économie italienne. On regardera ça de très près l'année prochaine.
Antoine Dierce, Laura Barton Martinez, Bruno Poncé, qui se lance? Antoine?
Moi je me lance. On a le sentiment dans notre pays qu'il n'y a pas de politique énergétique. C'est-à-dire qu'on est, on est très impacté tout de suite par le choc pétrolier. Moi, je suis dunkerquois avec des grosses industries très électro-intensives. On n'a pas suffisamment développé le nucléaire. Et partout dans le monde, Trump, on l'évoquait en premier, a conscience que l'énergie, c'est l'économie. L'énergie peu chère, c'est une économie qui fonctionne. Mais justement, le nucléaire n'est même pas vendu aussi peu cher qu'il pourrait l'être. Et donc, moi, j'ai envie de poser une question au ministre de l'Industrie que vous êtes aujourd'hui, c'est: quelle est la stratégie française d'énergie pour avoir une énergie peu chère disponible pour nos acteurs économiques?
Je pense quand même que sur ce débat, sur ce plateau, vous avez dû débattre de la fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça ne m'a pas échappé. En ce moment, moi, ce que je vois surtout, c'est que toute l'Europe peut dire merci à la France. Parce que si on n'avait pas les centrales nucléaires d'EDF qui tournent à plein régime... aujourd'hui, avec EDF qui exporte de l'électricité.
Pourquoi nos acteurs économiques ne bénéficient pas du choix stratégique français en ayant une électricité peu chère?
Excusez-moi, parce que l'électricité en ce moment en France, elle est plus chère qu'en Allemagne? Non, elle est moins chère.
Elle est à peine moins chère.
Non, elle est beaucoup moins chère.
Elle est à peine moins chère.
Elle pourrait être moins chère. Allez voir un ménage allemand et allez lui demander sa facture d'électricité par rapport à un ménage français.
Quand on parle même des acteurs économiques, on arrive à négocier.
Les Allemands vont mettre 3,5 milliards sur la table pour essayer de se rapprocher de notre tarif. Pour qui? Uniquement pour les hyper électro... Vous parlez de Dunkerque?
Non, mais attendez, je
vous réponds. Vous parlez de Dunkerque. Les hyper électro-intensifs, c'est Dunkerque.
Ils vont négocier leur tarif avec vous.
Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et le petit boulanger, il ne peut pas le négocier.
Mittal, il a négocié avec EDF. Il a un contrat de long terme pour plusieurs années. Et je pense que s'il n'avait pas un bon contrat, il ne l'aurait pas signé pour 10 ans ou 12 ans. Excusez-moi, j'ai plus exactement le chiffre en tête. Les Allemands, je le redis, vont mettre 3,5 milliards. Aujourd'hui, ils ont un coût de l'énergie qui est deux fois le nôtre. Les industriels ont un coût de l'énergie qui, après ces 3,5 milliards, peut-être l'année prochaine, sera encore plus de 12% supérieur au nôtre, uniquement pour les hyper électro-intensifs, c'est-à-dire une grosse centaine de sites industriels. Tout le reste est bien plus cher que l'électricité en France. Alors moi, je viens recevoir des leçons de la terre entière, mais nous avons fixé le cap.
Quelle est la stratégie française pour avoir une énergie bon marché pour soutenir en économie?
La stratégie française, c'est le cap de l'électrification, monsieur. Parce que à moins
donc
que
le nucléaire,
à moins donc,
pas seulement,
nucléaire,
donc on doit payer moins cher notre électricité nucléaire et on doit sortir de l'arène. Pardon, pour le consommateur.
Non mais l'arène, ça n'existe plus, monsieur. Sortir de l'arène,
c'est bien ressortir de
l'arène, mais l'arène, ça n'existe plus.
Du tarif.
Vous voulez dire sortir du système européen de l'énergie. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire.
Pardon, les Français, entreprises, vous tournez autour du pot, les Français, entreprises comme particuliers,
les Français,
payent l'électricité
non,
trop
les
cher.
Les Français, entreprises comme particuliers, aujourd'hui, payent leur électricité moins cher, ce qui peut arriver.
Du nucléaire français.
Ce qui peut arriver, et ce qui arrive très marginalement en ce moment. Pourquoi? Parce que justement, nos réacteurs nucléaires tournent à plein et que nous exportons. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Parce que là, vous faites la référence à 2022. En 2022, nos réacteurs tournaient à peine à 50%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de centrales à gaz étaient ouvertes. Il ne vous a pas échappé qu'en 2022, M. Poutine, encore un ami de Mme Le Pen, avait coupé les robinets. Et que le prix de
Je finis.
Avait coupé les robinets. Et que donc le gaz pesait de manière beaucoup plus importante sur le mix électrique. Aujourd'hui, le gaz pèse extrêmement marginalement.
Quelle est la stratégie? Moi, j'aimerais bien entendre le ministre de l'Industrie nous dire il faut absolument qu'on développe le nucléaire français, qui est notre chance, etc.
Donc je vais vous le dire parce que je suis élu en plus du territoire dans lequel j'ai deux usines Framatome, que nous développons massivement le nucléaire, que nous avons décidé de refaire 6 EPR2 supplémentaires et que nous prendrons la décision à la fin de l'année de savoir si nous en faisons 8 de plus. Parce que oui, l'électrification, oui, le nucléaire est la base de notre mix énergétique. Simplement, on a aussi dit qu'il fallait aussi du renouvelable à côté parce que les premiers EPR seront livrés en 2038. Et que donc, en attendant pour pouvoir monter la compétence en électricité, nous appuyons aussi sur le renouvelable en ayant fait une part moins importante peut-être à l'éolien terrestre qui pose des problèmes d'acceptabilité par la population et par contre en développant l'éolien maritime et en gardant du photovoltaïque.
On a l'hydroélectrique qui marche plutôt pas mal aussi en France.
Avec l'hydroélectrique, avec un système qui consiste à re-remplir en amont en fait les réservoirs des barrages pour pouvoir produire de l'électricité plus régulièrement avec les barrages.
Mais on a deux chiffres là qui sont arrivés à quelques jours d'intervalle. On a des prévisions de croissance qui sont un peu revues à la baisse et puis on a une inflation qui repart.
Bien sûr.
Donc ça c'est quand même pas bon pour notre moteur économique, plus cette crise que l'on connaît dont
bien
on
sûr
ne mesure pas encore les effets à moyen terme. Et tout le monde souhaite que ça s'arrête assez vite, la guerre au Moyen-Orient.
Donc on a une économie
qui patine là un petit peu.
Mais ça, ce sont des, il y a plusieurs choses, mais ça, ce sont des chocs extérieurs qu'on essaye du mieux possible d'absorber comme on le peut, parce que vous l'avez dit, la crise iranienne, elle dépend pas de nous. Le choc pétrolier, entre guillemets, le choc de l'impact du pétrole, il dépend pas de nous.
Situation économique
et donc, il a un impact
très, très
sur la
situation. C'est-à-dire que si on était dans un pays qui nous avec moins de déficit, on pourrait peut-être amortir ces chocs beaucoup mieux.
On est aux grandes gueules, donc on peut avoir
un débat vif, franc.
Un peu plus léger, mais franc et direct. La France a connu une année de récession depuis la crise du Covid 2020.
Non, on a une faible croissance, mais qui n'est pas suffisante.
D'accord, combien l'Allemagne ? Dites-moi l'Allemagne. L'Allemagne qu'on voit tout le temps en exemple.
C'est moins bien.
Récession. Et cette année,
se comparer aux mauvais élèves.
L'Allemagne, eh ben autant se comparer aux bons élèves. Excusez-moi, les Allemands ont toujours été les bons élèves.
L'Espagne, par exemple, est plutôt. Mais l'Espagne a fait des réformes. Ah, c'est sûr, ils ont demandé aux Espagnols de travailler un peu plus pour toucher la retraite.
L'Espagne,
on a suspendu la réforme des retraites.
L'Espagne a eu des années de récession.
Oui, et ensuite des années de réformes difficiles.
Et aujourd'hui, par quoi est tirée la croissance espagnole ? Par un marché intérieur et une consommation qui est relevée, parce qu'ils ont une forte population qui arrive d'Amérique du Sud. Ils ont 1,5 million de population qui arrive d'Amérique du Sud, qui est une main d'œuvre qui arrive dans ce pays pas forcément très chère, parce qu'en plus le coût de la main d'œuvre en Espagne est pas très élevé, et qui alimente en plus une consommation intérieure importante et qui explique une part de leur croissance. Plus, et moi je m'en réjouis parce qu'ils sont aussi axés vers l'industrie, qu'ils ont envie de développer des projets industriels.
Et le tourisme qui fait beaucoup tourner l'économie espagnole.
Et le tourisme
espagnole
qui
aussi
participe à l'économie espagnole.
Bruno Poncet.
On peut quand même vous dire que.
Vous pouvez tout dire.
Je vais pas vous faire plaisir, mais votre chèque carbone, vous êtes en train d'envoyer aux Français, on peut quand même vous dire que c'est pas une bonne idée en fait.
Le chèque énergie. En fait, c'est un chèque énergie qui existait déjà.
Ouais, non, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que mine de rien, vous dites ça va toucher 3,8 millions de foyers, 6 millions de personnes. Sauf qu'en fait aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'énergie, là on va parler un peu malheureusement de l'essence avec ce qu'il y a aujourd'hui, mais tous les Français sont impactés. Moi j'ai la chance d'habiter dans une grande ville, j'habite à côté de Paris, je prends les transports tous les jours, ma voiture c'est vraiment un truc d'appoint. Sauf que la plupart des gens ont besoin de leur voiture pour aller au travail, pour trouver du travail, pour les enfants et tout. Moi je trouve que ça aurait été quand même plus juste et moins inique de faire quand même de descendre le prix à la pompe pour tout le monde plutôt que de donner envoyer des chèques à qu'une portion incongrue de la population française en fait.
Des chèques pour baisser les prix à la pompe pour tout le monde, ça veut aussi dire que vous en faites bénéficier à une part importante de la population qui, elle, peut surmonter ce moment difficile.
Donc, nous
essayons plutôt d'avoir des mesures ciblées. Pour le moment, on s'est fixé sur certaines professions particulièrement utilisatrices de leurs véhicules.
Les transporteurs.
Hier, nous avons fait un point avec le Premier ministre, avec le ministre des Transports, avec d'autres membres du gouvernement sur d'autres populations qui, éventuellement, aujourd'hui, commencent à poser des difficultés. On a pris des décisions pour le mois d'avril. Celles-ci seront adaptées à la réalité de la situation. La politique qui consisterait à dire « Allez, on ouvre les vannes massivement en faisant les mêmes mesures pour tout le monde » ne nous semble pas être la bonne des définitions.
Vous savez très bien que les carburants français sont quasiment les plus taxés d'Europe. Donc là aujourd'hui, quand on a la chance d'habiter près de la frontière espagnole ou près de la frontière italienne, on paye moins cher. Est-ce que c'est normal pour le même produit de payer autant, d'avoir 60% de taxes sur les carburants ?
Alors, je voudrais juste apporter une précision dans ce qui est la taxe. Parce que quand vous dites 60% de taxes, c'est pas vrai.
Ah !
C'est pas vrai à l'heure à laquelle nous parlons. Parce que la composition... C'est important que les auditeurs comprennent bien. Parce que la composition de la fiscalité sur les carburants, la part la plus importante, en fait, est une part fixe, autour de 60 centimes. C'est ce qu'on appelle les accises. Voilà, ça, c'est une part fixe. Donc, que le carburant soit à 2,20 € ou à 1,65 € ou à 1,70 €, il y a cette accise qui, elle, est fixe. Après, ce qui varie, c'est la TVA. Mais la TVA ne représentait que moins sur le produit fiscal, que moins d'un tiers moins d'un tiers, 20%, comme vous le dites. Donc, au final, aujourd'hui, quand le prix du carburant, la proportion de la fiscalité n'augmente pas, elle n'est pas à 60%. En fait, elle est passée en dessous de 50%. Je ne vais pas vous dire que c'est pas trop, que c'est pas ce que vous entendez, mais c'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que vous dites.
Sur 2 euros, c'est 1,20 euro pour l'État.
C'est 60%.
Sur 2... Ah non, non, non. Non, parce que je viens de vous expliquer qu'on était en dessous de 50%, donc 2 euros, 1,20 euro, ça fait plus de 50%, excusez-moi. J'essaye de compter rapidement.
Oui, d'accord.
Mais on paye toujours plus cher que nos voisins espagnols et italiens.
On paye
pour le même produit.
On paye plus cher que nos voisins espagnols ou italiens. On paye moins cher que nos... On paye moins cher que les Allemands.
Ah oui.
Je sais pas par rapport aux Belges, j'ai pas tous les pays.
C'est quand ça vous arrange.
Effectivement. Pardon ?
J'ai l'Allemagne en exemple et contre-exemple, c'est quand ça vous arrange.
Ah non, j'ai tout le temps pris en exemple l'Allemagne et c'est pas un contre-exemple.
Oui, aujourd'hui, mais c'est quand même.
Alors, monsieur le ministre de l'Industrie, vous restez avec nous puisqu'il parle franchement. Il répond franchement au GG. Sébastien Martin, merci. Ministre de l'Industrie, en direct du Salon Global Industrie ici à Villepinte. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, surtout les Grandes Gueules en direct du Salon Global Industrie ici à Villepinte. Nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot, Laura Vartan-Martinez, sophrologue, Antoine Diers, qui est consultant juridique, et nous sommes surtout avec le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin.
2300 exposants ici, 60 000 industriels attendus. Beaucoup de jeunes également, pour expliquer à la jeunesse française que les métiers d'industrie sont des métiers d'avenir. On est souvent d'ailleurs mieux payé dans ces métiers-là que dans d'autres métiers, notamment les métiers de service. Et quand on parle de l'industrie française, c'est assez mitigé parce qu'il y a des choses qui marchent très bien. L'armement, le médical, l'agroalimentaire, d'autres qui sont en grande difficulté, notamment l'automobile, on va y revenir. Mais est-ce qu'on a toujours cette vision négative de l'industrie en France ? On a toujours ça en tête ?
Bah, c'est vrai que parfois il y a un peu l'image d'Épinal de l'industrie. L'industrie, ça serait pas propre. L'industrie, c'est ancien. L'industrie, ça pollue, etc. Bah,
c'est un peu ce qu'on a mis dans la tête des gens pendant les années, et on s'est désindustrialisé quand même.
Bah oui, finalement, c'était peut-être le moyen de faire passer la pilule, je sais pas, d'expliquer que c'était pas bien. Mais en même temps, ça a accompagné effectivement un mouvement de désindustrialisation, donc un flux qui était assez négatif. Ce qui explique aussi pourquoi. Vous savez, il faut du temps pour reconquérir aussi une forme d'acceptation et reconquérir les esprits en faveur de l'industrie. D'ailleurs, hier, je me suis amusé. J'ai fait un petit sondage là, lorsqu'on était sur la grande scène. On était à Global Industrie. J'avais en face de moi pratiquement que des chefs d'entreprise de l'industrie. Je dis, au fait, parmi vous là, combien ont leurs enfants qui sont dans des filières scientifiques et techniques ? Et d'ailleurs, ça m'amuserait de faire le même sondage ici. Et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait bien moins d'un sur deux qui avaient leurs enfants dans les filières scientifiques et techniques.
Et donc, pourquoi ?
Parce que finalement, après tout, on va aller faire plutôt une école de commerce, on va plutôt aller faire du droit. C'est très bien le droit, hein, j'ai pas de problème avec ça, il en faut aussi. Plutôt que de se dire, mon gamin, il a de la place dans l'industrie, qui est mieux payé. Les salaires dans l'industrie, c'est 20% de plus dans les services, si je mets à part la finance. Parce que la finance est vraiment très très à part, voilà. L'industrie, c'est de l'emploi partout dans les territoires. C'est pas forcément des gamins qui ont besoin de quitter leur territoire.
On manque d'ingénieurs en France d'ailleurs.
On manque d'ingénieurs et en plus, on forme pas suffisamment d'ingénieurs et on a une part trop importante des ingénieurs qui ne restent pas dans l'industrie et qui vont plutôt aller dans la finance. Alors, et ça, c'est un vrai sujet.
L'industrie moderne, monsieur le ministre, il y a quand même peu d'emplois qualifiés ou de moins en moins d'emplois en dehors des ingénieurs, c'est très robotisé, etc. Donc c'est là où l'enjeu industriel aujourd'hui, il est peut-être un peu décorrélé de l'enjeu de l'emploi.
En fait, je dirais qu'en réalité, l'avenir de l'industrie à travers l'utilisation des nouvelles technologies, au contraire, va demander sans doute un niveau de qualification plus élevé. Parce que finalement, aujourd'hui, un conducteur de ligne, c'est plus quelqu'un qui juste vérifie que les machines fonctionnent, mais c'est bien quelqu'un qui va devoir avoir quelques compétences
donc
en termes de programmation.
C'est que de l'emploi massif, c'est de l'emploi qualifié. Faut être clair avec les Français, on n'est pas en train de recréer des emplois pour ceux qui n'auraient pas de qualification.
Non, mais attendez, l'industrie, elle a évolué. vous dire demain j'implante une méga usine avec 10 000 emplois comme c'était le cas,
ça pouvait être le cas,
ça a complètement changé. Mais c'est aussi un enjeu parce que vous prenez en Asie aussi, ils robotisent, en Asie aussi ils modernisent. Et puis vous savez, on a aussi un enjeu démographique qui fait qu'on a un pays qui vieillit. Et donc, avoir des emplois avec plus de compétences et plus modernisés, c'est aussi une réponse à ça.
Et on a un enjeu de transition pour ceux qui travaillaient dans l'ancienne industrie, réussir à former, à requalifier au cours de la vie. Et là, je nous trouve assez absents sur la capacité à donner à quelqu'un qui a déjà un début de carrière les qualifications pour les nouvelles industries, les nouvelles usines. Je vois à Dunkerque, je sais qu'ils ont du mal à recruter du personnel qualifié.
C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe parce qu'on se dit on est dans des bassins industriels qui ont connu un moment des chocs et des crises. Et comment est-ce qu'on arrive à accompagner les gens vers les formations? Et vous avez raison, moi je crois qu'on a un des volets supplémentaires que là je suis... Vraiment, je veux développer ça. C'est-à-dire qu'on veut calquer sur les périmètres des territoires industriels une carte des formations qui correspondent à ces territoires industriels et mieux s'en saisir aussi avec les entreprises. Mm-hmm. Parce qu'on attend beaucoup de l'éducation nationale qui parfois n'avait plus ses métiers au sein de l'éducation nationale. Avec Édouard Geoffrey, on recrée des places dans les lycées professionnels. Mais je pense aussi, moi c'est ce que j'ai fait dans mon territoire à Chalon-sur-Saône, on s'est beaucoup appuyé sur d'autres acteurs. Vous avez l'UMM qui est le syndicat de la mécanique ou de la métallurgie qui a des centres de formation. Vous avez des acteurs comme le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, qui est très connu pour les cours du soir, mais qui propose des diplômes qui sont labellisés par l'État, parce que moi je me méfie beaucoup des diplômes pochette surprise. Vous avez des boîtes privées qui arrivent et qui vous dites, vous inquiétez pas, votre gamin il va avoir super poste et c'est payé, vous payez la formation 10 000 euros l'année et puis à la fin vous avez un truc qui est absolument ni reconnu par l'État et qui n'a pas créé de compétences. Et il y a d'autres acteurs qui existent et donc on va créer ce que je vais appeler moi des académies industrielles et technologiques. On calque sur les territoire, on fait intervenir des acteurs différents pour avoir le parcours de formation de bac moins 2 à bac plus 3.
Laura.
Oui, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour Laura.
Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en tant que ministre de l'Industrie, vous êtes le ministre également de l'Innovation. Et je trouve que malheureusement en France, il y a... L'État stagne sur ses solutions. Donc, je vais essayer de me permettre aujourd'hui de balancer des idées. Alors, moi, je ne suis pas ministre, je suis sophrologue. J'ai réfléchi dans mon petit coin. Pourquoi ne pas créer par exemple des zones franches d'imposition pour des entreprises qui viennent d'être créées et en contrepartie ces industries qui viennent s'implanter dans un territoire? Alors l'idéal ce serait de le faire dans des territoires ruraux où le chômage monte à la hausse. Et pourquoi pas, en contrepartie, demander à ces entreprises de financer justement les écoles d'ingénieurs de ces élèves, de financer les cours du soir pour des personnes en reconversion. Je pense par exemple à une personne qui a 50 ans, qui ne peut plus travailler comme elle travaillait avant, quelqu'un qui a bossé dans la métallurgie, que sais-je, et justement de lui payer cette formation. C'est-à-dire qu'on on remet enfin les chefs d'entreprise, les personnes qui innovent au sein de notre pays, à la barre. C'est-à-dire que c'est eux qui font tourner notre
Alors,
pays.
Alors, monsieur le ministre,
je pense que dans ce que vous dites est très vrai. On a besoin d'abord. Moi, hier, par exemple, j'ai reçu à Bercy là tous les industriels qui étaient ici. Il y en avait 700 que j'ai reçus à Bercy parce que moi j'ai voulu leur dire aussi que ce qui s'est passé ces derniers mois, où finalement ils en ont pris plein la gueule. On est aux grandes gueules, donc je vais dire plein la gueule. Voilà. Où on leur a expliqué pendant 6 mois, grâce à Monsieur Zucman ou à d'autres, que tout ce qui n'allait pas dans ce pays, c'était de leur faute. Que tout ce qui n'allait pas dans le pays, c'était la faute des riches et des chefs d'entreprise. Que tout ça était tout simplement assez inacceptable. Et que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, il faut les emmener avec nous. Alors, il y a des territoires où il y a des zones franches qui existent. Il n'y en a pas partout. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, les zones de revitalisation rurale. C'est exactement ce que vous ciblez, qui permettent d'avoir une fiscalité beaucoup plus favorable à l'implantation d'entreprises. Il y en a un nombre très important qui permet d'accompagner dans des zones franches, puisque la fiscalité est quasiment proche de zéro, le développement des entreprises. Il faut remettre les chefs d'entreprise à la barre sur les questions, comme vous dites, de compétences et de formation, notamment parce qu'en plus, ils en payent. Avec la taxe d'apprentissage, ils en paient. Moi, je suis très heureux, par exemple, du modèle des IUT, les instituts universitaires et technologiques, parce que dans les IUT, le président du conseil d'administration d'un IUT, c'est un chef d'entreprise, c'est le monde économique qui est autour de la table, et il doit être mieux associé, vous avez totalement raison.
Mais une question, parce que juste avant qu'on commence l'émission, ici on est au village de l'électronique, et discutais avec quelques chefs d'entreprise qui nous disaient, la France, on est super bien positionné en ce qui concerne l'électronique, l'électronique de pointe, dans les domaines pharmaceutiques, dans les domaines de l'armement, domaine d'innovation. En revanche, en France, on a raté un virage, c'est celui de l'intelligence artificielle. On se fait bouffer par les Américains, on va se faire bouffer par les Chinois.
Même si on a Mistral qui est un leader.
Oui, mais il y en a un.
Ah, c'est oui.
Oui, mais il y en a un.
Voilà, vous comparez les Chinois, les Américains, oui. C'est un continent.
Je sais bien, mais c'est leur puissance de feu. Donc il y a aujourd'hui, on aurait dû mettre en place une espèce de plan, ce que font aussi régulièrement les Chinois. Un plan qui pousse l'industrie de l'intelligence artificielle. On a raté ce virage en France, hormis quelques licornes qui sont devenues des pépites, monsieur le ministre.
Alors,
ou pas ?
Quand même, par rapport à ça, à l'innovation dont vous parliez tout à l'heure, on a quand même mis 53 milliards d'euros sur la table avec France 2030, qui a permis d'ailleurs d'accompagner Mistral ou d'accompagner d'autres entreprises de la tech ou de l'innovation dans notre pays. Par contre, je pense que effectivement, aujourd'hui, vous parliez de l'électronique et du microprocesseur. Il est certain, et d'ailleurs d'ici l'été,
c'est dont on va avoir énormément besoin.
En fait, on n'a pas suffisamment sur l'électronique pris, notamment dans la question des microprocesseurs, l'orientation autour des microprocesseurs qui sont extrêmement nécessaires, plutôt à l'IA. On a de la chance parce qu'on a quand même, vous l'avez dit, des champions. ST Microélectronique, par exemple, qui est une entreprise franco-italienne, on parlait des Italiens tout à l'heure, qui est un leader en la matière et qu'on va accompagner notamment vers le virage de l'IA.
Je voudrais parler de l'industrie automobile. On parlait de l'industrie qui fonctionne. Il y en a une qui est en grande difficulté, c'est l'industrie automobile française. En un peu plus de 10 ans, on a perdu 30% des emplois dans l'industrie automobile française. On a l'impression que on va définitivement dans quelques années se faire manger par les Chinois, sur l'électrique notamment, puisqu'ils sont en avance sur nous. Qu'est-ce qu'on a loupé ? On a imposé trop de choses à nos constructeurs français à leur détriment et à l'avantage de la concurrence étrangère.
Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous sembler extrêmement surprenant parce que c'est tout sauf l'idée reçue que l'on a en ce moment. Mais en fait, en ce moment, les Chinois, là où gagnent des parts de marché, notamment en France, c'est pas sur l'électrique, c'est sur des véhicules thermiques hybrides.
Oui.
Non mais c'est important ce que je dis là.
De toute façon c'est l'hybride qui se vend en France, pas le 100%.
C'est extrêmement important ce que je dis là. Le premier véhicule électrique en France par le nombre d'immatriculations et de ventes, c'est la R5 électrique produite à Douai. Dans les 10 véhicules électriques les plus vendus en France, il y a zéro véhicule électrique chinois. Pourquoi ? Parce que fin 2023, et notamment à l'initiative de la France, ont été mis en place des mesures de protection anti-dumping contre les véhicules électriques chinois, qui sont passés du jour au lendemain de 60% des ventes à 10% des ventes.
Sauf que c'est l'hybride qui se vend en France.
Par contre, il n'y a pas eu la même chose. Il n'y a pas eu la même chose sur l'hybride. Sur l'électrique, aujourd'hui, on a 25% des immatriculations qui sont des véhicules électriques. Et la crise actuelle fait que ça progresse d'ailleurs. Les derniers chiffres, on était plutôt autour de 30%.
Très aidé par l'État. Faut quand même
c'est dans encore tous une fois, les pays où l'électrique s'est développé, les pays nordiques, parlons des pays nordiques, où on nous explique, d'ailleurs parfois on nous explique l'électrique c'est pas bien, ça marche pas, parce que quand il fait froid, ça marche pas. D'accord, Norvège, Danemark, ils sont à 90% de véhicules électriques. Il me semble qu'il fait un peu plus froid, même par rapport à Dunkerque.
Avec un taux
d'équipement plus froid.
Avec un taux d'équipement remarquable.
Dans ces pays-là.
Avec un taux d'équipement remarquable.
En matière de bornes de recharge, nous sommes le pays européen le plus en avance en matière d'équipement. Vous regardez tout le réseau autoroutier, vous avez des bornes de recharge dans toutes les stations-service aujourd'hui. Maintenant, dans les territoires, dans les collectivités locales, on met en place des plans de déploiement de bornes de recharge. Le vrai sujet aujourd'hui, il est un sujet presque
culturel
de prix. On va en parler, mais aussi d'acceptation. Le Français aujourd'hui a peur d'avoir un véhicule électrique. Il se dit, je vais jamais arriver à faire le parcours. Et puis au final, c'est 3 fois par an, vous avez à faire 500 km d'un coup. Mais dans vos trajets du quotidien, domicile, travail, même si vous faites 20, 30 ou 40 km pour aller au travail le matin et revenir, avec un véhicule électrique, vous avez largement l'autonomie. Si vous habitez en plus en maison, vous vous branchez chez vous, ça vous coûte 5 euros le plein, alors qu'un plein d'essence, ça vous coûte beaucoup plus cher.
Merci monsieur le ministre, merci d'être passé dans les GG, dans les grandes gueules, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin. Dans un instant, l'Autriche interdit les réseaux sociaux aux moins de 14 ans. En France, c'est le Sénat qui prend le dossier en main. Est-ce qu'il doit embrayer ? À tout de suite avec les grandes gueules en direct du Salon Global Industrie.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG GG sont là, les GG en direct du salon Global Industrie ici à Villepinte. Nous sommes avec Bruno Poncé, avec Laura Varto-Martinez et avec Antoine Diers. On va revenir sur un débat qui repart régulièrement dans l'actualité parce qu'il est souvent pris à la fois par nos politiques et par nos voisins européens. Vous savez, ça concerne l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes. En fait, là, c'est l'Autriche qui a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans, ce qui lui a d'ailleurs valu les félicitations du président de la République, le président de la République française, Emmanuel Macron, sachant que c'est le Sénat qui s'empare du dossier aujourd'hui pour voir si, oui ou non, il faut interdire ces réseaux sociaux aux ados, c'est-à-dire aux moins de 15 ans qui sont accros, comme on dit aujourd'hui, au scrolling. Il y a un réseau social en particulier, c'est TikTok.
Oui, en fait, il faut distinguer les plateformes. C'est ce que disent les sénateurs. Ils disent, et donc, ils voudraient peut-être mettre un système à deux vitesses. Parce que les réseaux sociaux, quand on dit les réseaux sociaux, c'est un peu vague, c'est un peu général. Et tous ces réseaux sociaux ne sont pas forcément négatifs et n'apportent pas la même chose à nos enfants. Donc, l'idée, ça serait d'interdire les réseaux sociaux qui sont les plus addictifs. Alors, on pense beaucoup à TikTok, bien entendu, mais on pourrait parler aussi d'Instagram. Dès la rentrée prochaine, hein, puisque c'est la volonté du président de la République. Alors le problème, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes un peu compliqués d'autorisation. Est-ce que vous y croyez en fait ? Alors sur le principe, c'est une bonne chose de limiter les réseaux sociaux, mais dans la pratique, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va arriver à un système qui fonctionnera ?
Laura ?
Non, moi je pense qu'on peut peut-être réfléchir.
T'es sur TikTok en fait, toi ou pas ?
Non. Alors j'ai TikTok, mais parce que quand on m'envoie des trucs, je peux pas les lire sinon. Mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne TikTok, d'accord, ni même l'intérêt du truc. Je vous avoue que j'ai pas bien compris l'histoire. Non, je pense qu'il faut pas interdire complètement. Je pense qu'on a là, on ira peut-être se promener et peut-être qu'on aura une réponse.
Est-ce que tu es sur un réseau social ?
J'ai Instagram pour le boulot.
Voilà.
Parce que je suis pas mal de politiques, je suis des gens.
Le Sénat veut distinguer les plateformes qui nuisent à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfant. Et donc ça, ces plateformes seront sur une liste définie par arrêté ministériel. Et elles seront interdites au moins de 15 ans avec une vérification de l'âge. Et ensuite, il y aura d'autres plateformes, c'est là qu'on rentre dans l'usine à gaz, qui seront, elles, autorisées, mais avec un accord préalable d'au moins un parent qui sera nécessaire.
Non, mais tu peux réfléchir aussi
à des... formulaire
D412. J'attends, je finis. Tu peux quand même réfléchir à un système où, quand tu vas acheter ton téléphone n'importe où, t'as des téléphones pour mineurs et des téléphones pour majeurs, avec des téléphones qui sont automatiquement bridés avec un logiciel qui détecte l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que tu le rentres au moment où tu achètes le téléphone, tu rentres la date de naissance du gamin et comme ça le truc est bridé. Et pourquoi on n'est pas capable de faire un TikTok comme le TikTok chinois où ce ne sont que des vidéos qui apprennent des choses aux enfants, scientifiques. Enfin moi, ma fille, le ministre de l'Industrie aurait été ravi. Ma fille est une scientifique. Elle n'aime que faire des volcans, faire pousser des trucs. Elle adore tout ce qui est...
Et elle trouve les tutos sur les réseaux sociaux.
Non, c'est moi qui trouve les tutos parce que du coup, je me suis abonnée à des mamans, à des papas, ou à des gens qui font du contenu justement pour amener la science aux enfants, ben voilà, et ben on bride comme les Chinois. Enfin, je veux dire, un enfant chinois, il se retrouvera pas avec une fille qui twerk. Hein.
Ton approche est plus nuancée que celle du président de la République qui voudrait interdire.
Mais qu'il réfléchit, mais c'est comme d'habitude, on ne réfléchit pas à une solution intelligente, on réfléchit à la solution
la plus
rapide.
C'est une réflexion de vieux, peut-être aussi.
Ben, il faut.
Excusez-moi, hein, même si on a un jeune président, semble-t-il.
Antoine, sur quels réseaux sociaux tu es, toi, alors ?
Moi, je suis très accro à ex-Twitter pour de l'info, etc. Facebook pour voir les nouvelles des copains et Instagram pour voir un peu de tout, diffuser ce que nous faisons ici.
Pour voir où sont les gens en vacances.
Voilà. Mais je suis un peu comme Laura, c'est-à-dire que moi j'ai une ligne claire, c'est évitons toutes les restrictions à Internet, même pour les enfants. C'est-à-dire que je pressens, et vous allez me dire complotiste, machin, mais je pressens déjà le début de censure. Parce que si on se met à censurer l'Internet, bref, ça me pose un problème. L'outil n'est pas en cause. Il y a de mauvais livres, on ne va pas reprocher à Gutenberg d'avoir inventé l'imprimerie. Enfin, voilà. L'outil technologique n'est pas en cause, c'est la façon dont on l'utilise. Et pardon, je me voyais tout à fait, moi, jeune, passionné de politique, si les réseaux sociaux avaient existé quand j'avais 10 ans, eh ben, je me serais sûrement abonné à toutes les vidéos des plus grands débats politiques et ça m'aurait éclaté. Et si on m'avait interdit, moi, à 10 ans, d'aller sur les réseaux sociaux, ben, ça aurait été dommage. Et donc,
qu'est-ce qu'on fait sur le caractère nocif alors ?
les parents, pardon, les parents doivent regarder ce que follow leurs enfants. Si tu crées un compte réseau sur les réseaux sociaux, je veux être ami avec toi, voir ce que tu fais, voir ce que tu postes, et charge aux parents de checker. Et le téléphone, il ne reste pas dans la chambre le soir.
Alors qu'est-ce que tu réponds aux médecins, aux neurologues, aux spécialistes de l'adolescence qui disent il faut interdire parce que c'est
très dangereux,
parce que c'est addictif, parce que ça peut pousser au suicide certains jeunes.
Parce que t'as de l'abus comme d'habitude.
C'est parce qu'en fait, on est dans une société d'assistanat. On ne fait plus confiance à la responsabilité des gens. On ne fait plus confiance à la responsabilité des parents. Et j'aimerais voir un jour un juge sanctionner un parent pour avoir laissé son enfant des heures sur TikTok et il est devenu complètement con. Eh ben, c'est votre responsabilité. Vous lui devez 100 000 euros.
Votre mot est con, c'est votre faute.
Ah ben, évidemment.
Bruno.
Ouais, ben, moi déjà, c'est pas aux enfants de moins de 14 ans que j'interdis TikTok, enfin tous les réseaux sociaux, c'est à tous les connards qui menacent les gens de mort, qui les insultent, et on parle pas, alors je peux, les catégories d'insultes ça va de tout, mais enfin en attendant, les insultes racistes, antisémites, tout ça, et homophobes, alors là je veux dire les réseaux sociaux c'est comme la spécialité, et aujourd'hui c'est surtout ça le vrai problème, c'est que les réseaux sont pas régulés, moi j'entends, on peut penser à la responsabilité des parents. Mais moi, je me rappelle déjà d'un cas, tu t'en rappelles peut-être, Olivier, mais c'est que il y avait une des gamines qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps, qui avait été harcelée par ses copines d'école, dont la mère d'une des gamines avait harcelé l'autre. Donc, si tu penses que les parents vont réguler leur gamin, je pense que même des fois, ils sont encore plus cons que leur gamin, les parents. Donc, on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas devenu un outil, c'est devenu un déversoir pour plein de gens. Et en fait, je pense que ça a été dévoyé de leur premier sens des réseaux sociaux où ça devait être quelque chose d'intéressant. Internet, c'est intéressant.
Bah, ça reste aussi intéressant, il y a des choses très bien.
Oui, on est d'accord. Mais malheureusement, Olivier, entre le moment où toi tu vas regarder un truc très bien et le moment qu'on va traiter d'enculé, de fils de pute, je pense qu'à un moment tu vas te dire, ça me fait pas toujours rêver.
Je vois, j'ai une fille à la maison qui a 18 ans, elle va sur ses réseaux sociaux, dans le domaine qu'elle étudie, eh bien, elle y trouve des choses très intéressantes. Évidemment. Une sorte de coaching parfois. Moi je trouve qu'on est dans la diabolisation par des petits. Quand je disais que c'était les vieux, moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron il parle comme un grand-père, c'est-à-dire qu'il est dans la diabolisation de quelque chose qui fait partie de notre vie. On reviendra pas en arrière, les réseaux sociaux font partie de notre vie et qu'on peut utiliser d'une façon très intelligente. Mais le problème, c'est qu'on est là à dire ah, c'est le mal absolu. Si nos enfants se suicident,
tu peux pas mettre un flic chez chaque personne qui va tweeter un truc dégueulasse.
Moi, je voudrais savoir précisément comment tu vas lister les plateformes qui nuisent à l'épanouissement physique, mental ou moral.
YouTube, c'est bien. TikTok, c'est mal. Mais en fait, c'est trop caricatural.
Sachant qu'en plus, sur TikTok,
c'est ce que va faire Céda.
Oui, c'est ce qu'ils vont faire.
Sur TikTok, tu peux trouver des contenus qui nuisent effectivement à l'épanouissement. Encore, faudra bien définir
ce que ça.
Mais tu vas trouver sur TikTok plein de tutos qui
mais
sont
positifs. Mais sur YouTube aussi. Bah, en fait, nous, on a vu pendant
le procès.
Pendant le procès des attentats, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était sur Facebook et même sur YouTube et même à l'époque, on ne parlait pas de TikTok en 2014-2015, où ils trouvaient des vidéos de crimes ou de massacres perpétrés en Syrie qui excitaient les mecs. Donc, en fait, à un moment donné,
ça, les réseaux sociaux, quels qu'ils
sont, en fait. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est le vrai sujet, c'est à un moment donné, comment tu fait pour réguler que certaines images n'arrivent pas dessus.
L'algorithme.
Voilà.
C'est ce que je dis depuis tout à l'heure.
Ou l'interdiction de ces images.
Oui, mais t'arrives pas.
Voilà,
c'est là.
On interdit bien la télé. Alors, la télé, t'as un mot de travers.
Ce que je veux dire, c'est qu'entre le moment où l'image, elle arrive et qu'elle est déjà vue et le moment où elle est signalée puis retirée, il se passe un laps de temps où il y a déjà, le mal a déjà été fait. Alors que si, et je dis pas que j'ai la science infuse, mais on voit que ça marche avec justement le TikTok chinois. Si tu mets un algorithme qui ferme tous ces verrous-là, tu peux être sûr que ton gamin.
Ça va. T'as vu, Elon Musk, il a fait le contraire. Dès qu'il est arrivé, dès qu'il a pris la main définitive sur X, il a viré tous les modérateurs et basta.
On a Armand qui va intervenir dans notre discussion. Armand, il a deux enfants. Ses enfants ont 10 et 14 ans. Bonjour Armand.
Concerné, alors.
Bienvenue.
Qu'est-ce
que vous en pensez? Est-ce qu'il faut interdire ou vous misez plutôt sur votre autorité parentale alors?
L'autorité parentale, je me range à 400% derrière Antoine. Merci Antoine, il a dit tous les termes qu'il fallait. Donc moi, les réseaux sociaux, ça ne concerne pas du tout mon petit de 4, de 10 ans puisqu'il n'a pas de téléphone, mais ça concerne plutôt le grand. Il a un seul réseau social, c'est Snapchat, parce que voilà, c'est par ce biais-là qu'il communique beaucoup avec ses copains et tout. On a l'application Family Link qui nous permet de réguler le temps qui passe sur son téléphone et réguler le temps qui passe par application. Et ça roule comme ça. De mémoire, je crois qu'il doit avoir une heure de Snapchat par jour. Et
il n'est pas sur TikTok alors.
Non, hors de question. Pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de Twitter. On se permet de prendre son téléphone parce qu'il habite chez nous, qu'il est mineur et que c'est comme ça. Pour regarder.
Merci pour le discours. Des parents investis pour leurs enfants.
Et c'est tout.
Mais on peut rien faire.
Je peux me permettre, si ça part en sucette sur les réseaux et qu'il y a des problèmes, c'est de la responsabilité des parents. On a des personnes mineures chez nous. On s'en occupe. Fin de l'histoire. En fait, le débat ne doit pas aller plus loin. Et c'est pas au gouvernement à chaque fois de nous pondre des lois pour se substituer aux parents à l'arrache qui s'occupent pas de leurs gosses.
Le gouvernement, il a aussi la responsabilité de protéger. Et quand les parents sont défaillants à ce niveau-là, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité. Je suis d'accord typiquement avec vous. Moi, ma fille ne touche pas un téléphone. Elle sait pas comment ça fonctionne.
Elle a quel âge ?
Elle a 6 ans. Mais je peux te dire que je connais des gamines de 6 ans. Tu leur donnes le téléphone, elles savent très bien comment ça fonctionne.
Donc, je suis complètement partisane de nos enfants. Je suis 100% d'accord avec vous.
C'est mon leitmotiv. Je ne peux être que.
Sauf que. Des lois pour les gens qui sont irresponsables. Par exemple, si vous voyez.
Dans ce cas-là,
on enlève les radars, on enlève tout.
Mais Armand, moi, je suis d'accord avec vous. Sauf que nous, malheureusement, on a traité ici des sujets où c'est les parents qui avaient accéléré des fois ou même permis le harcèlement de gamines entre elles ou trucs comme ça. En fait, moi, j'entends avec vous, dans un monde normal, les parents serviraient le rôle de parents. Les parents suivraient les études de leurs gamins, leur faire les devoirs. On est dans un monde aujourd'hui où les parents, sont des connards finis qui accélèrent des fois le problème.
Alors interdire ça, les parents connards.
Armand est arrivé en tant que père responsable à cadrer son fils, à lui imposer une discipline sur l'utilisation du portable et des réseaux sociaux.
Tout le monde n'est pas comme Armand,
William qui nous appelle de Marseille. Bonjour William, bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Vous avez un enfant d'un an et demi, mais vous êtes déjà en train de vous renseigner sur comment faire, c'est ça?
Je suis dans une tranche d'âge où j'ai plein d'amis qui ont des enfants plus âgés. Voir des parents plus âgés que moi et en fait je sais plus c'est qui la personne qui disait qu'en étant ami avec la personne on peut voir ce qu'elle fait. Alors par exemple tout bête mais sur Instagram, si vous avez la personne en ami, mais votre ami peut vous contrer qu'on pouvait pas voir ses stories, pas voir ses publications, etc. Donc si vous l'avez en ami, elle peut tout vous bloguer quand même. Donc l'enfant qui veut pas faire voir certains trucs à ses parents, il peut très bien le faire.
Vous prenez son téléphone.
Ça veut dire qu'il faut prendre son téléphone tous les jours.
Mais ça, c'est plus compliqué à faire.
William.
Oui, voilà. Mais déjà, vous avez raison. Et en plus, ça veut dire que l'enfant ne sera pas du tout en confiance par rapport à ses parents. Il va se sentir fliqué tout le temps.
Un ado va lui piquer son portable.
En plus, un ado pour lui piquer son portable, c'est encore pire.
Oui, mais Antoine, l'ado, il va dire oui, c'est ma vie privée, tu vas regarder mes conversations avec mes copines, mes copains.
Il y a mon meilleur ami, ce qu'il a fait, il a mis un contrôle parental sur téléphone qui dit, par exemple, qui dit tel site il peut y aller, telle application il peut la télécharger. Ou même encore mieux, c'est que par rapport au temps sur téléphone, il peut bloquer un nombre d'MO ou de gigas par jour. Et que dès que l'enfant est épuisé, au moins il apprend à se contrôler tout seul.
Effectivement, il existe des outils, William. Merci d'avoir été avec nous, avoir conclu la discussion. Réseaux sociaux, faut-il les interdire en moins de 14 ans? On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, justement. Vous dites oui à plus de 70%. Suite des GG dans un instant. Ce sera la troisième heure des Grandes Gueules concernant l'attentat du Bataclan. On a des policiers de la BAC qui n'ont pas reçu la Légion d'honneur, qui ont été exclus des décorations. Est-ce que c'est scandaleux?
Vous appelez Étienne Dao pour avoir
c'est
une
au 32-16 d'en parler. Avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.